Salut à toutes et à tous. Au sommaire de ce Rétrovision, nous aurons King's Quest 2, Narc, Dharma Dujou, un dossier sur la Super Akan, Wonder Boy 5 et la démo Guardians 2 du groupe K-Friends sur Amiga. Bienvenue sur Rétrovision. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Rétrovision, l'émission toujours 100% rétro gaming. On débute comme d'habitude avec un point and click. Cette fois-ci, il s'agit de King's Quest 2, version remasterisée. Sous-titré Romancing the Stones au lieu de Romancing the Throne, cette suite vous propose de diriger une fois de plus Sir Graham, qui est maintenant devenu roi après avoir récupéré les trois trésors dans King's Quest 1. Après avoir consulté son miroir magique pour localiser sa future épouse, quelle originalité, le roi Graham part à la rescousse de sa belle enfermée dans une tour sur une île perdue. Une quête secondaire consiste à mettre la main sur trois pierres magiques servant de clés afin d'ouvrir le chemin vers sa bien-aimée.
You push the heavy wooden door open, take a deep breath, and step nervously inside the castle entrance.
Ce remake est extrêmement fidèle à l'original sorti en 1985 et dispose de graphismes en VGA, d'une bande-son magnifique et d'un doublage entièrement en anglais.
Thing is payment for helping you find that book.
Of course.
Would you be so kind as to take this bracelet and place it on my mother's grave?
Son auteur, Roberta Williams, s'est grandement inspiré des contes et légendes occidentales, puisque l'on a ici un record de références avec le petit chaperon rouge, des vampires façon Dracula, des méchantes sorcières, des nains sournois, Poséidon, des sirènes, des licornes, un tapis volant et même des citrouilles parlantes. La progression est assez linéaire, puisque le moindre oubli risque de vous bloquer, vous obligeant de recommencer à votre dernier point de sauvegarde, bien entendu, si vous avez pensé à sauvegarder, règle numéro 1 de tout aventurier digne de ce nom. En guise de conclusion, je vous conseille fortement de télécharger cette version arrangée de King's Quest, qui est quand même beaucoup plus plaisante à jouer que son ancêtre sorti en 1985, avec de meilleurs graphismes, une bande-son de qualité et surtout l'interface est ergonomique avec des curseurs très précis. Un grand merci à AGD Interactive pour son travail, surtout que vous pouvez vous procurer les trois premiers King's Quest totalement gratuitement sur leur site internet.
Such are not the questions you should be asking. You have come for the Air Gem, or the Growth Gem, as it was once named by the ancients.
Narc est un run and gun bien trash édité par Williams Electronics sur arcade en 1988 et adapté par la suite sur les plateformes de l'époque comme l'Amiga, l'Amstrad CPC et bien sûr l'Atari ST, dont voici quelques extraits. Vous dirigez un des deux membres des équipes du Narc, Max Force et Hitman. Le but du jeu est de remplir chaque mission proposée en infiltrant à la manière forte un réseau de trafiquants de drogue, généralement situé dans des quartiers vachement craignos. Contrairement à la version sur Atari ST, la borne d'arcade était dotée d'un processeur 32 bits proposant des sprites digitalisés. Pour passer au niveau suivant, il va falloir atteindre la sortie, symbolisée par la lettre E sur le radar en haut de l'écran, sans oublier de récupérer les cartes magnétiques qui servent à ouvrir les portes. D'autres portes donnent accès à des sous-niveaux, mais l'objectif est toujours d'avancer le plus possible vers la droite en dézinguant les méchants, ou mieux, en les arrêtant, ce qui rapporte plus de points. La maniabilité sur micro-ordinateur est tout simplement horrible. Vu qu'il n'y a qu'un seul bouton d'action, les sauts se font en faisant deux pressions rapides vers le haut, idem pour s'accroupir, deux pressions vers le bas. Ça passerait encore s'il n'y avait pas ces maudits chiens qui vous agrippent toutes les 10 secondes. Autre aspect déroutant, c'est l'absence totale de son pendant la partie. Juste des bruitages et quelques voix digitalisées, mais je pense que c'est mieux ainsi. Ils nous ont épargné des musiques qui risqueraient de nous saouler plutôt qu'autre chose. Pour résumer, Narc aurait pu être un bon soft s'il avait bénéficié d'une réalisation plus soignée, à réserver donc aux nostalgiques uniquement. Dharma Dujou est un puzzle game sorti sur Super Famicom en 1994. Ce casse-tête vous propose une thématique orientée culture japonaise traditionnelle où le principe est de frapper des gros blocs pour en faire correspondre trois de la même couleur dans la section du bas. Lorsque ces trois blocs sont alignés horizontalement, ceux-ci disparaissent et se transforment en projectiles magiques pour venir percuter le petit monstre situé à gauche de l'écran. Si par malheur il atteint le haut de la corde, la partie est terminée et il faudra reprendre le niveau depuis le début. Le but étant de faire tout disparaître avant que le monstre ait atteint le haut de la corde, cela va de soi. Si vous alignez trois blocs de couleurs différentes, la ligne remonte et pousse l'ensemble des éléments vers le haut. Vous avez le choix entre deux personnages, un gars ou une fille. Chacun d'eux aura à leur possession une énorme massue qui leur permettra de pousser les éléments du jeu, un à la fois, pour les faire glisser vers la ligne souterraine, car c'est elle seulement qui sera comptabilisée. Dharma Dujou s'avère être un casse-tête très sympathique, coloré, dépaysant même, avec une superbe ambiance sino-japonaise, le jeu par excellence pour relaxer et varier un petit peu les styles, car il n'y a pas que les FPS ou les platformers dans la culture vidéoludique. « Au tout début des années 90, l'île de Taïwan était connue pour être le paradis de la contrefaçon. Malgré cette activité pratiquée comme un sport national, certaines entreprises locales d'électronique grand public firent le pari de créer leur propre système de divertissement vidéo. Funtech Entertainment, de son vrai nom Duan Huan Technology, filiale de la société de semi-conducteurs UMC, qui commercialisa en octobre 1995 sa Super A-CAN. Cette machine, dont l'esthétique fait penser à une improbable fusion entre une Super NES US et une Mega Drive, est une console 16 bits dont la puissance brute est supérieure à ses concurrentes, ce qui n'a rien d'étonnant pour une machine commercialisée 6 ans après. Pensée comme un système évolutif au même titre que la Mega Drive, la console est pourvue d'un port auxiliaire prévu pour accueillir un lecteur CD-ROM et un module 32 bits très fortement semblable au 32X qui devait faire tourner des jeux en 3D. Prise entre deux feux, d'un côté les clones bon marché et de l'autre les nouvelles consoles made in Japan, la Super A-CAN ne trouvera pas son public, d'autant que celle-ci était vendue à un prix prohibitif, découlant de son développement chaotique. Seulement 12 jeux furent commercialisés, d'une qualité plutôt honorable compte tenu du peu de temps alloué au développement. On trouvera notamment un puzzle game, Formosa Duel, deux RPG, Son of Evil et Super Dragon Force, des jeux de plateforme action comme Journey to the Loaf et Sonic Dragon, deux petits jeux de plateau, Adventure in Africa et Gambling Lord. Malgré ses qualités techniques indéniables pour une 16 bits, la Super A-CAN fut un bide magistral et mit Funtech Entertainment sur la paille, avec une ardoise de 6 millions de dollars. De par son échec cuisant et sa distribution limitée à la seule île de Taïwan, la Super A-CAN est devenue une pièce de collection très rare, un jeu à lui seul se négociant à une centaine d'euros minimum. La Super Fighter Team a acquis la plupart des licences des jeux édités sur Super A-CAN et compte rééditer ces jeux sur d'autres plateformes. Dernier test de cette sélection, Wonder Boy in Monster World sur Mega Drive, sorti en 1991. Il s'agit du cinquième de la saga et du troisième de la série des Monster World. Cette fois-ci, vous incarnez Sion et vous devez encore vous débarrasser des monstres qui ont envahi la contrée de Monster World. Le système est semblable à celui de tous les autres épisodes de la saga depuis le tout premier, où il s'amusait à balancer des hachettes en costume d'Adam au bon milieu d'une forêt. Le personnage principal est toujours vêtu comme un chevalier à la recherche d'argent pour pouvoir s'acheter des équipements comme des objets magiques ou de l'armement. Ce cinquième Wonder Boy, ou ce troisième dans la série des Monster World, pour ceux qui suivent, reprend approximativement les mêmes éléments du gameplay de Wonder Boy 3, Dragon's Trap, puisqu'il consiste en un side-scrolling action avec un monde à aire ouverte, c'est-à-dire qu'il est possible d'aller se balader un peu partout, mais certains passages ne seront accessibles uniquement après avoir récupéré certains objets ou avoir accompli des quêtes secondaires. Les décors traversés sont un grand mélange de tout ce que l'on a pu voir dans les versions précédentes, volcans, pyramides, villages féeriques, jungles, châteaux et le fameux décor tropical avec son univers aquatique. C'est donc du déjà vu, mais on reste dans des valeurs sûres, propres à la saga. Pour la petite originalité, notons tout de même l'apparition d'alliés comme la petite fée Priscilla, un gnome spécialiste pour découvrir des portes secrètes, un chat volant et aussi un dragonnet tout mignon. ces créatures sont invincibles et attaquent automatiquement les ennemis. C'est un peu comme le chien-loup de Shadow Dancer, malgré le fait qu'il n'inflige pas forcément de dégâts. Mais on a toujours besoin d'un plus petit que soi. La palette de couleurs utilise des teintes très colorées, autant pour les sprites que pour les décors. Là aussi, on reste dans du classique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans cette série. Pareil pour les musiques et les bruitages qui sont tout à fait honorables. Et bien pour résumer, ce cinquième Wonder Boy ne déroge pas à la règle et atteint des sommets nous proposant un mélange parfait entre plateforme et aventure avec un soupçon de RPG pour l'évolution du personnage. Bref, il contient tous les éléments pour en faire un jeu mythique. D'ailleurs, je profite de ce test pour vous annoncer le Pixel Love numéro 22 sorti récemment, comportant un dossier super intéressant sur la saga Wonder Boy. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à regarder. Ça fait plaisir. Place à la démo, toujours sur Amiga, Guardians Dragon 2 du groupe Kefrens. Alors à très bientôt sur Rétrovision.